Je relirai la suite d'un verset qu'a lu Charlie tout à l'heure dans le dernier chapitre de Néhémie. C'est le chapitre 13. Tout ceci pour montrer encore quelque chose concernant la manière de Dieu d'agir et de parler. Donc nous avons lu les versets 23 à 26 qui rappelaient le péché du peuple et le péché de Salomon. Et là nous lisons au verset 25. Salomon, roi d'Israël, n'a-t-il pas péché en cela? Or, parmi la multitude des nations, il n'y avait point de roi comme lui. Et il était aimé de son Dieu. Et Dieu le fit roi sur tout Israël. Lui aussi, les femmes étrangères l'ont fait pécher. Et vous, écouterions-nous pour faire tout ce grand mal, pour être infidèles à notre Dieu, en prenant des femmes étrangères? Et puis dans 1 Roi 11, que nous avions lu aussi, qui rappelait justement ce péché de Salomon, ces femmes qui détournèrent son cœur, et donc le jugement de Dieu qui dit à Salomon, verset 11, je t'arracherai certainement le royaume à la fin du verset, seulement je ne le ferai pas dans tes jours à cause de David, ton père. Fin du verset 13, je donnerai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur. À cause de Jérusalem que j'ai choisi. Or, simplement cette pensée, chers amis, devant ce que nous avons rappelé, de ce que Charlie nous a présenté, d'abord, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et nous, qui sommes-nous, nous-mêmes, pour porter tel jugement? Il est certain que Salomon a manqué. Dieu le dit comme il veut le dire. Et sa parole à lui, c'est celle-là qu'il faut écouter. Et pourtant, il nous a dit, il l'a aimé. Alors, on peut s'arrêter aussi là-dessus. On a été aimés. Nous avons des défaillances. Nous pouvons manquer. Et voilà, nous sommes aimés. Et un Dieu et un Seigneur qui va veiller et qui a un plan. À cause de Jérusalem que j'ai choisi, à cause de David, nous n'avons rien à dire. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, chers amis, c'est simplement pour introduire la suite, car aussi il nous faut, nous avions dit que nous allions parler de ces trois livres. Alors, nous allons parler de ces trois livres. Mais avec cette pensée que nous devons rester attentifs à Dieu qui parle. Et Dieu qui dit cela, j'ai choisi Jérusalem. Je fais ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette attitude devant Dieu? Eh bien, c'est la crainte. Et c'est ce qui est rappelé dans le livre des Proverbes. Qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel et le commencement de la connaissance? La crainte de l'Éternel, chapitre 9 des Proverbes, on va le lire. Aussi rappeler cela. Chapitre 9 du livre des Proverbes. La crainte de l'Éternel, verset 10, est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. On trouve tous ces textes dans le livre des Proverbes. Nous connaissons. Autrement dit, il y a déjà première chose, la crainte. Qu'est-ce que cela veut dire? La crainte, c'est-à-dire, nous sommes invités, et c'est la première chose qui est donnée au début du livre, des Proverbes, pour instruire, on a lu les premiers versets, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Nous ne connaîtrons pas, nous ne serons pas sages s'il n'y a pas d'abord cette crainte. Cette crainte, c'est-à-dire que nous nous inclinons devant ce que Dieu fait, ce que Dieu dit. Nous donnons à Dieu sa place. Lorsque Dieu nous parle de la famille, lorsque Dieu parle de l'éducation des enfants, lorsque dans le livre des Proverbes il est parlé de tous ces sujets qui ont été évoqués, eh bien d'abord, nous nous inclinons. Dieu a dit. Dieu parle, et alors nous écoutons. Et en même temps, nous savons cette chose, et nous allons poursuivre dans cette optique, que Dieu nous anime. Gardons ces deux choses bien présentes à l'esprit. Dieu, avec toute son autorité, il parle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Nous avons chanté ce premier cantique, « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est notre vie. Notre vie, elle est là. Alors, écoutons et ayons cette attitude de crainte devant ce que Dieu dit. On lui laisse sa place. Dieu a dit quelque chose concernant le mariage. Charlie a fait allusion. Je ne vais pas entrer plus dans le détail. Mais il a dit quelque chose, Dieu. Les versets, on pourrait les chercher dans la parole. Eh bien, qu'avons-nous à faire? Eh bien, à nous incliner devant ce que Dieu dit. Et Dieu a parlé. Et ce que Dieu a fait est bien, est très bien. Et ce que fait Dieu, il le fait pour notre bien. Ne l'oublions jamais. Il le fait parce qu'il nous aime. Autrement dit, nous sommes aimés. Nous avons un Dieu qui poursuit un but, qui est son but. Et tout ce qu'il fait, il le fait bien. Alors ne manquons pas. Ne manquons pas ces versets, ces débuts de versets et ces instructions qu'on trouve dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, il nous fait passer toute une série de sujets. On pourrait décliner et se dire, quand nous étudions le livre des Proverbes, je me souviens, peut-être chacun a pu le faire, en famille, avec des enfants, c'est aussi très intéressant. Puis suivre un sujet, une pensée qui court dans le livre. Puis ainsi plusieurs pensées. On a parlé de la famille, de l'éducation. On a parlé des amis. On pourrait parler de la parole, notre parole. Comment parlons-nous? Le rapporteur. Que rapportons-nous? La médisance, attention à ce que nous disons. Est-ce que ce que je dis est vrai? Première porte. Est utile? Deuxième porte. Et la troisième, la plus difficile. Est-ce que ce que je vais dire est charitable? Si je franchis ces trois portes, alors je peux le dire. Vrai, utile, charitable. Voilà, tout ceci se trouve dans le livre des Proverbes. On pourrait chercher. Alors, on va lire quelques versets, simplement pour montrer et bien resituer tout cela. Et j'ajouterai aux versets déjà lus quelques versets, par exemple, dans le chapitre 2. Si tu inclines ton cœur, verset, fin du verset 2. à l'intelligence, si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et que tu la recherches comme des trésors cachés. Il s'agit de la sagesse aussi qui était dit dans le verset 2. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Verset 10. Si la sagesse entre dans ton cœur, pour d'autres versets, un peu plus loin, chapitre 4, acquiert la sagesse, ne l'oublie pas. Verset 7, le commencement de la sagesse est acquiert la sagesse. Verset 20, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours, garde-les au-dedans de ton cœur. Verset 23, pour lire le verset 22, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Verset 27, n'incline. Verset 26, pèse le chemin de tes pieds, que toutes tes voies soient bien réglées, n'incline ni à droite ni à gauche, éloigne ton pied du mal. Chapitre 8. Le chapitre où nous avons lu le début, où la sagesse est là comme personnifiée, et nous y trouvons le caractère de notre Seigneur, et qui nous dit au verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouveront. Avec moi sont les richesses et les honneurs, les biens éclatants. Et la justice, mon fruit est meilleur que leur fin, même que leur pur, mon revenu meilleur que l'argent choisi. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de juste jugement pour faire hériter les biens réels à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Goûtons ces paroles, chers amis. C'est le Seigneur qui parle. On est loin des tonnes d'or de Salomon, mieux que l'or, plus que l'argent choisi. Ce sont les biens réels, ce sont les biens éclatants de la justice, les biens, les seuls profitables, des trésors. Alors, c'est aussi un sujet que celui-là, et je dirais un verset. J'espère que je vais le retrouver dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 33. Enfin du verset 6. La crainte de l'Éternel sera votre trésor. Associons tous ces versets ensemble. Ce que dit le Seigneur en Matthieu 6, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, mon trésor, mon cœur, la crainte de l'Éternel, la crainte qui est le commencement de tout, de la connaissance, de la sagesse, la crainte qui est de haïr le mal, et c'est mon trésor. Unis mon cœur à la crainte de ton nom, disait David, psaume 86. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Vous voyez bien que notre cœur ne peut pas être séparé de cette crainte. C'est nos affections qui sont engagées. C'est notre cœur que le Seigneur veut. Proverbe 23. On va lire que un ou deux versets. Nous avons chanté un cantique dans notre cantique tout à l'heure, la surnorme des paroles de vérité. C'est au verset 21 du chapitre 22. Pour te faire connaître, ne t'ai-je pas écrit des choses excellentes en conseil, en connaissance, pour te faire connaître la surnorme des paroles de vérité? Ne recule pas la borne ancienne que tes pères ont faite, verset 28. Et puis, ce verset, un peu plus loin. On lui parlait du cœur sage, verset 15. Et puis, cette expression du verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et puis, je lis ce verset 23. Achète la vérité et ne la vends point. Et nous en parlerons tout à l'heure. Donc, mon fils, donne-moi ton cœur. Il nous est demandé de garder ce cœur plus que tout ce que l'on garde. Et le Seigneur dit, mais donne-moi ton cœur. Nous chantons de temps en temps, possède mon cœur, possède notre cœur, il est ton salaire. Oui, le Seigneur Jésus le veut. Nous étudions, et hier nous en avons parlé, il s'adresse aux siens. Qu'est-ce que ça veut dire les siens? Mais c'est ceux qui lui appartiennent. C'est ceux qui lui appartiennent. Chers amis, nous ne parlerons et nous ne comprendrons jamais assez les raisons, et nous n'aurons jamais assez de ressources et de forces si nous n'avons pas compris que nous appartenons à Jésus. J'aime le dire et le répéter, on parle de séparation du mal avec juste exactitude, c'est exact. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Mais cette séparation du mal, ou ce principe de séparation dont on parle, est subordonné au principe d'appartenance. C'est dans la mesure où nous réalisons que nous appartenons à Christ, que nous sommes à lui. Quand nous le réalisons, nous le vivons, nous disons, mais je suis à lui. Et tous ces quatre chapitres de Jean que nous étudions, c'est le Seigneur qui parle aux siens, qui les aime jusqu'à la fin. Et toute notre vie et tout ce que nous allons pouvoir faire sur la terre découle de cela. Je suis à Christ, nous sommes à Christ. Mon Fils, donne-moi ton cœur. Alors, chers amis, pensons beaucoup à cela. Voilà le message du livre des Proverbes et d'autres messages. Mais avançons, puisque nous voulons dire un mot sur ces deux autres livres de Salomon. Eh bien, autrement dit, dans ce livre des Proverbes, nous avons, et nous pourrions, en le relisant, avoir une série d'instructions, d'exhortations, d'avertissements, de toutes sortes. De toutes sortes, comme une indication, comme une feuille de route. Cette expression n'est pas de moi, mais c'est un frère, M. Capel, qui l'a utilisé. En parlant du livre des Proverbes, c'est une feuille de route. Nous avons une feuille de route. Alors la feuille de route, pour chacun peut trouver sa feuille de route et ses conseils pour cette feuille de route. Alors maintenant, on tourne et on pense à un livre de l'Ecclésiaste. Et pourquoi ces trois livres côte à côte? Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Aussi différents l'un de l'autre. Et pourtant, trois livres donnés par Salomon, mais c'est Dieu qui est derrière, c'est Dieu qui dirige tout. C'est Dieu qui est là. Alors, au livre de l'Ecclésiaste, on a dit deux mots, j'ajoute quelques expressions, et on va en lire deux ou trois mots, deux ou trois expressions, chapitre 2. Donc, on a vu la conclusion de Salomon, du verset 11, du chapitre 2. Puis on continue. Et au verset 20, « Alors, je me suis mis à faire désespérer mon cœur à l'égard de tout le travail dont je me suis travaillé sous le soleil. » Du mal à comprendre bien le français de ces expressions, mais le sens, il n'y a pas de doute, nous le voyons et nous le discernons. « Je me suis mis à faire désespérer mon cœur. » Verset 22, « Car qu'est-ce que l'homme de tout son travail et de la poursuite de son cœur dont il s'est tourmenté sous le soleil ? Tous ses jours sont douleurs, son occupation est chagrin, même la nuit, son cœur ne se repose pas. » Alors voilà, voilà le tableau que Salomon donne et que Dieu donne à travers ce livre de l'Ecclésiaste. Il décrit le monde, ce qui se passe sous le soleil. Du temps de Salomon, certes, mais ne trouvons-nous pas là-dedans des expressions et des pensées qui sont tout à fait de notre époque, de notre temps? C'est un tableau du monde où nous sommes, où nous vivons. Et alors, Salomon en a fait l'expérience à travers tout ce qu'il vient de dire, et il en a souffert. Alors, chers amis, Dieu nous donne cela, non pas peut-être, et j'invite peut-être tous nos enfants, nos jeunes gens, il ne s'agit pas pour nous de refaire ces expériences. Ne disons pas, mais tiens, je vais essayer, je vais aller là, je veux faire cela, je vais voir, je vais me jeter dans ce travail, je vais m'étourdir dans tel plaisir. L'avertissement est donné. Il est donné, et la parole nous est donnée pour que nous écoutions, que nous nous en nourrissions, que nous nous arrêtions sur cette parole. Alors voilà. Autrement dit, la feuille de route nous a été donnée dans le livre des Proverbes, et maintenant nous sommes en route. Mais nous sommes en route où? Dans ce monde. Nous traversons ce monde. Nous ne nous promenons pas dans ce monde. Qu'est-ce qui se promène dans ce monde? Satan se promène. L'homme sans Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Il ne traverse pas, il erre. Il cherche son chemin. Alors, par la grâce de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, qui ont un but, sont ceux qui traversent ce monde. Et nous allons où? On en a parlé hier, vers la maison du Père. Donc, on a une route, on a une feuille de route, on a un but, et on est dans ce monde. On est là, avec tous ces avertissements sur sa méchanceté, sur ce monde qui a perdu, qui chancelle, cette terre qui est ivre, ces choses qui s'écroulent, tous ces fondements qui disparaissent. Que fera le juste si les fondements sont détruits? Psaume 11. Que fera le juste si les fondements sont détruits? On a une double compréhension de ce verset. Que fera aujourd'hui le juste dans une terre où les fondements sont détruits? Donc voilà déjà la première chose. Deuxième compréhension de ce verset, on pourrait se dire, mais que fera le juste, que ferions-nous, chers amis, si nous ne nous appuyons pas sur les vrais fondements, sur cette parole, sur ce qui nous a été donné, laissé, enseigné? Donc on voit bien ces deux choses. À la fois le monde dans lequel nous sommes, ses fondements sont détruits et nous sommes interpellés. Qu'allons-nous faire? Les justes, les sages, par grâce, par miséricorde, il n'y a rien dans nous. Mais qu'allons-nous faire? Donc nous avons, on n'a pas le temps de tout faire, mais voilà, c'est à poursuivre cette pensée. Donc s'assurer aujourd'hui, on est dans un monde dont les fondements sont détruits. Donc, attention. Et l'autre côté, ne perdons pas les fondements sur lesquels sont basés et doivent être basés nos vies. Nous en avons cité l'autre jour aussi. Alors, on continue, l'Ecclésiaste, donc. Et pour un titre d'exemple, on a encore un peu de temps, je vais lire, par exemple, au chapitre 4. Simplement pour montrer que nous avons bien un tableau du monde et que nous reconnaissons les situations que nous vivons aujourd'hui. Verset 1er du chapitre 4 de l'Ecclésiaste. Et je me suis tourné et j'ai regardé toutes les oppressions qui se font sous le soleil. Et voici les larmes des opprimés. Et il n'y a point pour eux de consolateur. Il y en a des opprimés dans ce monde. On voit des larmes, on entend des larmes. Il y a des personnes qui sont angoissées, qui sont opprimées, qui sont angoissées. Nous avons nous-mêmes, dans cette traversée, nous avons cette force et ce secours qu'est le Seigneur. Et là, on voit au verset 8 de ce chapitre suivant. Si tu vois le pauvre opprimé, et le droit et la justice violentés dans une province, ne t'étonne pas de cela. Mais il y en a un qui est au-dessus des hauts et qui y prend garde. Alors, chers amis, il nous semble, on pourrait dire, mais oui, dans ce monde, il y a des opprimés, il y a des... Mais Dieu voit. Il y en a un qui est au-dessus de tout et qui voit. C'est lui qui agit, qui agira quand ce sera le moment pour lui d'agir. Mais il sait, Dieu sait tout cela. Nous continuons notre chemin dans ce monde. Un monde où, par exemple, au chapitre 4, verset 4 du chapitre 4, j'ai vu tout le labeur de toute l'habileté du travail et que c'est une jalousie de l'un contre l'autre. Tous ceux qui ont connaître le travail ici ou le travail dans quelque milieu que ce soit, n'avons-nous pas vu cette jalousie, ces combats, ces disputes, cette attitude méchante, sans scrupules? Voilà, j'en dirai pas plus, mais on pourrait avoir dans le même chapitre également un mot sur les richesses au verset 13, le paragraphe du verset 13 au verset 17. Donc, on peut trouver dans ce livre le tableau du monde où nous sommes et où nous avons acheminé. Nous sommes avertis, nous sommes alertés, ne reproduisons pas les expériences que Salomon a produites. Écoutons. Et puis, ce n'est pas un livre négatif, ne croyons pas cela. On peut lire et simplement s'arrêter sur au moins ce paragraphe, la fin du chapitre 9. Ah, j'ai vu aussi cette sagesse sous le soleil, elle a été grande pour moi. Et il y avait une petite ville et peu d'hommes dedans. Et un grand roi vint contre elle et l'investit et bâtit contre elle de grandes terrasses. Or, il s'y trouva un homme pauvre et sage qui délivra la ville par sa sagesse. Mais personne ne se souvint de cet homme pauvre. J'ai dit, mieux vaut la sagesse que la force. Mais la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Alors, chers amis, qui est cet homme pauvre? Nous le lisons de temps en temps. N'est-ce pas l'image de notre Seigneur qui est venu dans ce monde et qui a été, lui, le pauvre? s'est abaissé, qui s'est appauvri pour nous enrichir, nous. Et il a été méprisé. Méprisé dans ce monde, rejeté. Alors nous voudrions ne pas être comme notre Seigneur. Nous pourrions être autrement que notre Seigneur. Lorsque nous étudierons le chapitre 16 de Jean, nous verrons que ce qui nous attend, ou ce que le Seigneur dit à ses disciples, c'est « Ils vous ont persécuté, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Mais, chers amis, si cela est vrai, et si, le Seigneur, et si ceci est dit, et si nous avons dans le livre de l'Ecclésiaste ce petit paragraphe, il faut le voir comme quelque chose que Dieu ne peut pas retenir, qu'il a envie de donner. Il a envie de nous délivrer déjà ce qu'il va faire. Bien sûr, nous connaissons maintenant, nous, le Nouveau Testament, qui est clair, l'Ancien. Et nous avons là, mais Dieu nous veut dévoiler déjà ses plans. C'est comme s'il ne résistait pas à nous montrer, à montrer aux hommes de cette époque déjà ce qu'il allait faire. Et c'est ainsi qu'il y a toutes ces touches dans l'Ancien Testament qui sont là et qui nous parlent de qui? Du plan de Dieu et du Seigneur lui-même. Alors, verset chapitre 12, « Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. » Voilà les avertissements qui sont donnés. Voilà, nous traversons ce monde, mais nous avons ces avertissements, verset 13 du dernier chapitre. « Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. » Crains Dieu et garde ses commandements, c'est là le tout de l'homme. Et nous revenons à cette crainte. Nous revenons à cette crainte. Et alors maintenant nous arrivons au Cantique des Cantiques. Peut-être à quelques minutes et nous conclurons. Alors le Cantique des Cantiques, complètement différent bien sûr, mais je vais citer quelques versets simplement pour illustrer. Avant de les citer, non, je les cite d'abord. Le chapitre 1er du Cantique des Cantiques, verset 4. Le roi m'a amené dans ses chambres. Nous nous égayerons et nous nous réjouirons en toi. Verset 12. Pendant que le roi est à table, mon nard exhale son odeur. Verset 4 du chapitre 2, « Il m'a fait entrer dans la maison du vin, sa bannière sur moi, c'est l'amour. » Ensuite, chapitre 3, on voit que la bien-aimée cherche son bien-aimé, elle l'a perdu, elle ne le trouve plus. « Je chercherai celui qu'aime mon âme », verset 2. « Celui qu'aime mon âme », plusieurs fois elle le répète. Verset 16 du chapitre 2, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Alors le bien-aimé va agir, et au chapitre 4, on le voit qui s'occupe de sa bien-aimée. Et il va l'appeler, elle va venir. Il lui dit au verset 12, « Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » Expression d'amour de ce bien-aimé qui est attristé de voir sa bien-aimée qui s'est écartée. Alors l'épreuve peut-être va venir, le vent du nord va souffler. Réveille-toi, vent du nord, viens midi, souffle dans mon jardin pour que ces aromates s'exhalent, dans ce jardin, cette bien-aimée et ce jardin même. Alors, il y a l'épreuve, et puis la bien-aimée est attirée, la bien-aimée revient. Mais voilà, chapitre 5, de nouveau elle s'endort, je dormais. Chapitre, c'est la voix de mon bien-aimé qui la bien-aimée s'endort. Alors, il faut qu'elle soit réveillée, et finalement elle est réveillée. Et au chapitre 6, elle peut dire « Je suis mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » La proposition est renversée par rapport à celle que nous avons lue au chapitre 2. Et puis, on continue au chapitre 7. Je suis à mon bien-aimé. Son désir se porte vers moi. Viens, mon bien-aimé. Et puis, verset 13. Il y a des fruits exquis, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Voilà simplement ces versets qui illustrent cette pensée du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est donc un cantique. Il y a dans la parole des cantiques de victoire, des cantiques de louange, des cantiques d'adoration, et puis là, il y a un cantique que l'on appelle le Cantique des Cantiques, hein, parce qu'il nous parle d'amour. Alors, c'est l'amour entre la Sulamite et son bien-aimé. Et puis, on peut y voir aussi les pensées prophétiques. On peut y voir les pensées du Seigneur pour son Église. Et là, nous allons parler comme si nous continuions le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste. Nous sommes le bien-aimé. Nous sommes celui, chacun peut dire, je suis aimé de mon Seigneur. Et le Seigneur est là, et vient rappeler, vient dire, eh bien voilà, je t'emmène dans ses chambres, son intimité, partager son intimité. À table, sa communion. La table dans la parole, c'est la communion. La maison du vin, c'est la joie. Son intimité, n'oublions pas, le Seigneur, il veut, il a lavé les pieds de ses disciples en Jean 13 pour qu'ils aient une part avec lui. Je veux cette part, il veut cette communion. Il veut, il nous veut. Et c'est ce qu'il désire. Plus que nous, nous le désirons. Et il veut nous donner ce bonheur, entrer dans la maison du vin. La joie. Et puis, nous avons nos défaillances. Nous avons nos défaillances en chemin, nous oublions, nous le perdons. Nous dormons. N'est-ce pas qu'il nous arrive de dormir? Et alors notre bien-aimé est là et il vient frapper. Il vient heurter. C'est lui qui heurte. Alors, chers amis, on va conclure à travers ces quelques pensées. La feuille de route, le livre des Proverbes. Le lieu où se déroule cette route. Le livre de l'Ecclésiaste, ce monde. Ce monde qui n'a jamais pu satisfaire le cœur, notre cœur, désespérément vide. Rien trouvé pour ce cœur. Le monde ne peut rien apporter. Notre cœur est trop grand pour recevoir quelque chose. Et alors le Cantique des Cantiques, c'est le contraire. Cette fois-ci, il y a un objet pour nos affections. C'est Christ lui-même. Mais notre cœur est trop petit pour le connaître, lui, pour connaître tout ce qu'il est, toute sa gloire, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il renouvelle. Notre cœur déborde, il est trop petit. Alors voilà, voilà ces trois livres, tels qu'ils sont. Alors je voudrais dire maintenant une chose, pour terminer. Dans le chapitre 24 de Luc, il y avait des disciples qui marchaient. On appelle les disciples d'Emmaüs et le Seigneur va se révéler à eux. Et puis, le Seigneur va leur dire cette parole. Voilà, le Seigneur il leur dit, verset 25, aux gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Il leur explique ce qu'il avait accompli. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Nous avons rappelé les Proverbes, ce livre poétique, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Eh bien, ce sont les choses qui regardent notre Seigneur. Et lorsque nous avons ces choses, nous sont présentées, Eh bien, leur cœur brûlait. Verset 32, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin, lorsqu'il nous ouvrait les Écritures? Lorsque ces Écritures nous sont ouvertes, lorsqu'elles sont ainsi rappelées, notre cœur ne va-t-il pas brûler? Nos affections, n'oublions pas que c'est ce qu'il désire. Dans la dernière pensée, j'avais dit qu'on en parlerait, nous avons vu, acquiert la sagesse, achète la vérité. Pourtant, nous avons lu aussi, l'Éternel donne la sagesse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donne. La vérité fait partie de ces bénédictions qui sont données gratuitement, achète sans argent, achète sans argent du vin, du lait, la vérité. Et dans l'Apocalypse, dans l'épître à Laodicée, la lettre à Laodicée, le Seigneur dit, le témoin fidèle et véritable, il dit, mais j'aurais voulu que tu sois froid ou bouillant, mais tu es tiède. Achète de moi de l'or passé au feu, un collier, pouvoir, etc. Autrement dit, acquiert veut dire achète. Et Laodicée, celui de l'Odyssée disait, mais je n'ai besoin de rien. Voilà la chose, voilà le pierre de touche, chers amis. Je n'ai besoin de rien. Et c'est là où le Seigneur nous attend. Celui qui est tiède, c'est celui qui n'a besoin de rien. Ce qu'il veut, c'est que nous ayons ce désir. Quand on achète quelque chose, c'est qu'on a besoin de cette chose. C'est la première définition. J'ai besoin de quelque chose, je vais l'acheter. Et voilà ce que la parole veut nous enseigner. Achète la vérité, nous avons soin. Achète la sagesse, acquiert la sagesse. Dieu l'a donnée, mais la désires-tu cette sagesse? La désires-tu vraiment? Alors voilà ce qu'il nous faut. Chers amis, et nous arrêter là-dessus, sur cette pensée. Le Seigneur n'abandonne pas. J'ai toujours pensé pourquoi il dit j'aurais voulu que tu fusses froid ou bouillant. On comprend le cœur qui brûle, bouillant, hein, bouillonne d'une bonne parole, de l'abondance du cœur, on va parler. Bouillant, mais pourquoi froid? Alors, dans la parole, je pense qu'il y a un seul verset que j'ai recherché, c'est Jacob. Jacob, quand on lui annonce que Joseph vit, la fin de la Genèse, il y a un verset qui dit « Et son cœur fut froid, car il ne le crut pas. » Donc le cœur froid, c'est le cœur incrédule. Et là, on retrouve encore les pensées de Dieu à l'égard de ses serviteurs, de la même manière qu'il s'est occupé de Salomon, qu'il a aimé Salomon, de la même manière qu'il a aimé Jacob, qui a fini sa vie adorant sur le bout de son bâton, de la même manière que le Seigneur a parlé à Pierre, et que Pierre va le renier, et que la fin de Pierre et de ses épîtres sera merveilleuse, lorsqu'il dira « Croissez dans la connaissance de la grâce ». Eh bien, des hommes comme Jacob, comme Pierre, sont des hommes qui un jour ont été froids. Mais le Seigneur s'est occupé d'eux. Il les a ramenés et a donné, a permis que ce soit ces hommes bouillants, des cœurs pour lui engager. Chers amis, il y a une chose qu'il nous faut tenir, c'est la tiédeur. Gardons-nous. Ayons des besoins, ayons soif, ayons envie, désirons des quarts d'heure. On pourrait multiplier les versets de l'Écriture qui nous disent « Mais désirez-le, mais désirez avec ardeur. » Voilà ce que le Seigneur veut encore nous apprendre à travers ces trois livres.